Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro des Carnets de Région, le magazine collaboratif des radios du Languedoc-Roussillon. Durant tout ce beau mois d'avril 2013 et sous l'oreille attentive des auditeurs et des radios associatives de la région, c'est Radio Aviva qui sera rédactrice en chef de cette émission. Au sommaire de cette semaine, on commencera par un tour dans l'Aude pour constater que le département est à la pointe en ce qui concerne la lutte contre l'utilisation des pesticides. Toujours dans l'Aude, on parlera de l'opération régionale Lycéen Tour qui y amène entre autres le cirque aux lycéens. Tout ça, ce sera avec RCF Pays de l'Aude. RCF Maglonero nous emmène, eux, sur la prochaine comédie du livre en rencontrant le consul d'Algérie à Montpellier, puisque l'Algérie et le Maghreb seront mis à l'honneur lors de cet événement. On écoutera ensuite Edwy Plenel revenir sur la mission des journalistes dans le système démocratique parfois obscur dans lequel nous vivons. Il était interpellé par les micros de Radio Pays d'Hérault à la sortie d'une conférence intitulée « Le journalisme d'investigation est-il une condition de la démocratie ?» Avec Radio Escapade, vous saurez pourquoi la mairie du Vigan a décidé d'apposer une banderole de soutien aux quatre otages français, dont le sévenol Daniel Laribe, retenu au Niger. Et enfin, nous découvrirons le dernier né des dispositifs de l'éducation nationale pour tenter de former les professeurs avec le recteur de l'Académie de Montpellier, Christian Philippe. Ça, c'est un sujet de Radio Aviva. C'est parti pour ce carnet de région. En cette semaine du développement durable, jetons un coup d'œil sur les efforts audois dans la réduction de l'utilisation des pesticides. C'est un sujet d'Éric Boyer de RCF Pays de l'Aude.
Vous pouvez voir par exemple une campagne d'affichage actuellement à Carcassonne intitulée « Mission zéro pesticide ». Mais les initiatives dans le département ne manquent pas et elles ne datent pas d'hier. Écoutons Hervé Loussert, délégué à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour le contrôle et la gestion des pesticides dans l'Aude et dans les Pyrénées-Orientales.
Au niveau du département de l'Aude, on peut dire qu'on est quand même un département très très en avance. Je citerai ne serait-ce que le Conseil général qui est parti sur une option de ne plus utiliser de pesticides. En même temps, on peut citer toutes les communes, Castelnaudary, Carcassonne, Narbonne et bien d'autres comme Sigean, qui se sont lancées sur la non-utilisation de pesticides. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et je conclurai en disant qu'il y a quand même une grosse expérimentation de la SNCF, notamment sur les étangs de bâche, pour ne plus utiliser de pesticides. C'est une première en France. La SNCF est un gros consommateur de pesticides pour désherber les voies ferrées. Donc ils sont actuellement dans une réflexion afin de mettre en place des pratiques pour ne plus utiliser de pesticides. Donc c'était une première qui avait été négociée à l'époque avec le réseau ferré de France, avec le soutien de l'Agence de l'eau et en conseil la DRAF. Et c'est une opération qui devrait maintenant être du niveau national. J'en profite également pour préciser que les VNF n'utilisent plus de pesticides le long des chemins de halage depuis quelques années. Je conçois que dans certains cas de force majeure, on n'a pas d'impératif. Donc ce qu'il faut, c'est proposer aussi aux gens des alternatives. C'est là que le bât blesse et c'est le plus dur, notamment dans le cadre du monde agricole, où il faut proposer. On peut interdire, mais en même temps, ou dissuader d'utiliser, mais il faut proposer systématiquement une alternative. Je pense qu'on ne peut pas laisser les gens sans alternative.
Proposer du cirque pendant une semaine dans un lycée avec représentation et atelier. Telle est, entre autres, la vocation de l'opération régionale Lycéen Tour. Elle nous est présentée par Éric Boyer de RCF Pays de l'Aude.
Celle-ci a fait escale dernièrement au lycée Jean Durand de Castelnaudary et c'est la compagnie Hors Piste qui a proposé un spectacle aux élèves, mais aussi des ateliers pendant toute une semaine. Vincent Gommet, directeur artistique de la compagnie, nous dit de quoi ont besoin ces élèves quand ils assistent à la représentation dans leur lycée.
Là, ils ont besoin de recevoir quelque chose où ils n'ont plus besoin de se poser de questions, ils n'ont plus besoin de s'apercevoir qu'il y a du travail derrière, parce que ça doit être la magie, le spectacle est magie, le cirque est magique, et qu'après, ils nous posent des questions, après, c'est intéressant, mais pendant le spectacle, il ne faut surtout pas qu'ils se posent ces questions-là. Pareil pour la musique, quand on écoutait un musicien, on se demandait si c'était dur, ça serait invivable.
Donc il y a deux publics, il y a deux postures, la posture spectateur et après celui qui est intéressé qui veut le faire, c'est autre chose.
Oui, il y a l'actif et le rétroactif. C'est, voilà, nous on pose et on dépose. Et quand on pose, on ne se pose pas la question. Sur le moment où toutes les choses se déposent, ben là, les réflexions viennent. Est-ce que j'ai envie de faire ce métier-là? Est-ce que j'ai pas envie? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça ne me parle pas? Est-ce que je préfère le cirque ou la musique? Est-ce que je préfère le bleu ou le rouge? La science ou la littérature, voilà, c'est toujours après qu'on se pose les questions, c'est pas pendant.
Carole Bousquet est professeure de lettres et de théâtre au lycée Jean Durand de Castelnaudary. Elle nous explique pourquoi le cirque au lycée captive toujours autant les élèves.
On est dans le jeu, hein, voilà, on est dans le jeu. D'ailleurs, le théâtre aussi, on dit que c'est du jeu dramatique, hein, on est toujours dans le jeu.
C'est instinctif.
Oui, et puis c'est vrai que nos élèves, hein, ils ont besoin de jouer encore. Hein, ce sont des adolescents, mais ils ont besoin de ce jeu, de retrouver des choses spontanées, très simples en fait, des choses très simples qu'ils perdent parfois. C'est vrai qu'on est dans l'ère du numérique. Et je trouve que c'est un complément essentiel justement que le théâtre et le cirque. Hein, c'est très important de ne pas se couper, de ne pas être que des cerveaux devant un ordinateur. Voilà.
S'incarner.
Tout à fait. Voilà, s'incarner tout à fait. Oui, oui. Je crois que on est dans cette société-là où il ne faut pas perdre de vue sa corporalité, comme vous disiez tout à l'heure. Hein, vraiment, il ne faut pas perdre de vue ce sens de l'humain. Hein, on est des êtres humains avec un cerveau, mais aussi un corps. Et si on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Hein, c'est Montaigne qui disait une tête bien faite et bien pleine. Hein, mais aussi un corps aussi. Hein, je veux dire, il ne faut pas oublier Rabelais non plus. Hein, être bien dans son corps. Voilà.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
La Comédie du Livre, institution littéraire et culturelle de Montpellier, fête sa 28e édition les 7, 8 et 9 juin. Chaque année, un pays est à l'honneur. L'an passé, c'était le Royaume-Uni. Cette année, c'est l'Algérie et plus largement le Maghreb. Alors, pourquoi l'Algérie? Eh bien, au nom d'une amitié initiée en 2009 avec le jumelage de Montpellier et de Tlemcen. Explication avec Khaled Mouaki Benani, consul d'Algérie à Montpellier, au micro de Maud de Bourquenay de RCF Maguelone Hérault.
Montpellier avait joué un rôle précurseur. C'était le premier accord de coopération et de jumelage entre deux villes algériennes. Ça a ouvert les portes par la suite à d'autres projets, celui du département de l'Hérault avec son équivalent à Oran. Un autre accord de coopération entre la ville de Perpignan et la ville de Mostaganem. Il y a d'autres accords interprofessionnels. Je peux parler d'un rapprochement entre les barreaux de Montpellier, celui d'Alger, de Blida et d'Oran, entre la cour d'appel, les deux cours Montpellier et Tlemcen, dans le cadre aussi d'un accord intergouvernemental a été signé et qui donne lieu maintenant à un échange fructueux dans le domaine de la coopération judiciaire. Et tout ça, c'est une dynamique qui marche bien. Dans les résultats, on les avait vus dans le dernier déplacement du président Hollande en Algérie, qui a été accompagné par Madame Hélène Wandrou. Il a visité la ville de Tlemcen, qui reste un partenaire ou une interface assez importante entre la France et l'Algérie, parce qu'il s'agit d'une coopération décentralisée.
Donc c'est des échanges assez variés, hein.
Ah oui, très très variés. Universitaire, pardon, j'ai oublié peut-être le plus important, un accord interuniversitaire entre Montpellier 3 et l'université de Tlemcen, et puis beaucoup de rapports entre une mobilité interuniversitaire entre des professeurs. Voilà. Un autre rapprochement aussi, à mes yeux, qui a son importance, c'est les hôpitaux de Montpellier avec les hôpitaux d'Oran et de Tlemcen, de Annaba, de Béjaïa, d'Alger. C'est une dynamique et une coopération pluridisciplinaire.
Alors le fait que l'Algérie soit invitée à la Comédie du Livre, c'est une forme d'aboutissement de cette amitié ?
Oui, c'est le couronnement justement de ces liens culturels surtout et à travers les langues, puisque la Comédie du Livre, elle est ouverte aux écrivains d'expression arabophone et francophone. Et là, vous allez voir que l'Algérie est un grand espace culturel à travers des jeunes talents ou les anciens noms, puisqu'on va rendre hommage à l'une des plus grandes plumes, à savoir Mohamed Dib, à travers la Fondation Mohamed Dib et quelques intellectuels de Montpellier. Et vous allez avoir aussi des jeunes talents, des figures de jeunes de l'Algérie indépendante qui continuent à écrire et à entretenir cette langue, comme disait l'un de nos grands auteurs, d'entretenir cette langue qui est un butin de guerre, comme il a dit.
À travers le consulat, l'Algérie a contribué à la sélection des auteurs. Au total, 40 écrivains maghrébins seront là, dont une vingtaine d'Algériens. Les femmes ne seront pas oubliées, avec par exemple Maïssa Bey ou Leïla Sebar.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Le journalisme d'investigation est-il une condition de la démocratie ? Telle était la problématique d'une conférence débat animée récemment à la faculté de droit et de sciences politiques de Montpellier par Edwy Plenel, le cofondateur de Mediapart. Une question qui résonne avec l'actualité du moment et les aveux de Jérôme Cahuzac sur la détention d'un compte bancaire caché à l'étranger révélé par Mediapart. Edwy Plenel, interviewé par Robert Martin de Radio Pays d'Hérault avant les révélations de l'ancien ministre du Budget.
J'ai voulu transmettre ce que je pense souvent, c'est que l'inquiétude est l'antichambre de l'espérance. Pour arriver à refonder une espérance, il faut d'abord prendre conscience de ce qui menace. Oui, il y a une barbarie de l'argent pour l'argent. Oui, il y a une obscénité d'un monde qui abrite en secret des prévarications. Oui, il y a un danger que nous soyons saisis par une oligarchie de l'avoir et du pouvoir. Et donc j'ai voulu transmettre cela pour dire que face à cela, la publicité, savoir ce qui est d'intérêt public, le droit de savoir des citoyens sont des armes essentielles.
Ce journalisme d'investigation, c'est un journalisme militant ou un journalisme engagé ?
Non, c'est un journaliste simplement fidèle à sa promesse démocratique. Le journalisme marche sur deux jambes. Une jambe professionnelle, vérifier, recouper, être honnête, être loyal, être précis, être rigoureux. Mais il y a une deuxième jambe. Il y a besoin de journalistes pour que la démocratie soit réellement le régime de n'importe qui. Que chacun d'entre nous soit informé avant de voter, avant de décider, avant de se faire son opinion. Car comment choisir si je ne sais pas ? Si je sais, je suis un peu plus libre.
Et dans ce cas-là, la liberté de la presse est menacée alors aujourd'hui ?
La liberté de la presse en France est faible. En apparence, tout va bien. Mais notre système démocratique est de basse intensité. La plupart des médias privés sont aux mains d'industriels qui n'ont rien à voir avec les métiers de l'information, qui ont d'autres intérêts, les ventes d'armes, l'aéronautique, le bâtiment et les travaux publics, le luxe, l'import-export, les banques, la finance, tout ça est un mélange des genres. Et le service public de l'information a subi une régression du côté de sa dépendance à l'égard du monde du pouvoir, du monde des cabinets ministériels, du monde dans l'entre-soi du pouvoir.
C'était Edwy Plenel, président et cofondateur du site d'information Mediapart, au micro de Robert Martin de Radio Pays d'Hérault, interviewé à Montpellier le 25 février dernier à la sortie d'une conférence sur « Le journalisme d'investigation est-il une condition de la démocratie ?»
Carnet de région
Hérault
Aude,
Gare,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gare,
Lozère, Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Cela fait maintenant plus de 2 ans que 4 Français ont été enlevés au Niger par Al-Qaïda au Maghreb islamique et sont toujours retenus en otage. Parmi eux, le Sévenol Daniel Larib. Discrète au début, à la demande des autorités françaises, les familles des otages commencent à s'impatienter, d'autant que les inquiétudes se sont ravivées à cause de l'intervention française au Mali, qui a fait craindre des représailles de la part des preneurs d'otages, eux aussi membres d'ACMI. Depuis, les familles des otages communiquent et un de leurs moyens d'informer la population, c'est de poser des banderoles de soutien aux otages sur le fronton des mairies. Le Vigan s'est ajouté à la liste des mairies qui ont fait le choix de mettre en place cette banderole. Le maire de la ville et conseiller général Éric Doulcier s'explique sur cette décision.
Pourquoi l'envie ? D'abord pour témoigner simplement notre solidarité envers les familles d'une manière générale, et puis plus particulièrement envers Madame Larib qui est gardoise, Sévenole. Et donc on a pensé que c'était un acte de fraternité envers ces familles. Et on va dire peut-être aussi quelque part une certaine idée de ce que peut être la résistance, c'est-à-dire que quand on est privé de tout, je pense en particulier aux otages, il leur reste leur liberté de penser certainement. Et ça c'est un cheminement précieux pour tous les Sévenols. Venu dire aux familles le soutien de la ville du Vigan dans leur démarche, dans leur attente et dans leurs espérances. Tout le conseil est d'accord et solidaire avec ce type de démarche, même si nous sommes bien conscients que là nous sommes sur le domaine du symbole, hein, plus que sur de l'action concrète qui efficace. Hein, et je disais ce matin que souvent les actions communales avaient tendance à s'inscrire dans la durée et que celles-ci, on aimerait bien qu'elles durent le moins longtemps possible.
Françoise Laribe, l'épouse de Daniel Laribe, était présente au Vigan pour la mise en place de cette banderole. Pour elle, même si ce geste est symbolique, il reste important et elle sait de quoi elle parle. Elle a été elle-même otage pendant 5 mois avant d'être libérée le 24 février 2011. On écoute Françoise Laribe.
C'est très très important, j'allais dire, pour nous déjà les familles, pour les amis, pour les collègues de Daniel, parce que ça reste un témoignage de soutien. Un témoignage visible, hein, c'est très symbolique à la fois et en même temps très, très visible. Hein, il y a cette dimension-là. Et puis, on se dit aussi qu'il faut parler de leurs conditions actuellement, de leurs conditions de prisonniers de l'impensable, hein, de l'innommable. Et à travers eux, les quatre, on pense aussi aux autres otages. Il se passait, c'était très différent. Hein, c'est ce que on m'a dit. Hein, les familles et les amis avaient opté pour la discrétion. Nous aussi, hein, lorsque je suis rentrée, on avait opté aussi pour la discrétion. Mais au bout de 2 ans, on a pensé qu'il était temps de médiatiser. Et actuellement, on médiatise aussi notre peur et notre angoisse parce que ce n'est pas facile. C'est compliqué pour nous. Mais voilà, on veut garder quand même cette espérance de leur retour.
C'était un reportage de Rémi Goujon pour Radio Escapade.
Carnet de région. L'actualité en langue roussillon.
C'est le dernier arrivé en matière de formation des enseignants. Il s'agit du dispositif Emploi d'avenir professeur ou EAP. Il entre dans le cadre de la réforme de la formation initiale des enseignants. Un dispositif qui a pour but d'aider les étudiants boursiers à acquérir une expérience professionnelle rémunérée dans le professorat. Alors, comment se présentent ces emplois d'avenir professeur et est-ce qu'il s'agit simplement d'emplois précaires? Autant de questions que Liliane Drey a posées à Christian Philippe, recteur de l'Académie de Montpellier. C'est un sujet de Radio Aviva.
Monsieur le recteur, vous venez de rencontrer aujourd'hui au lycée Champollion des personnes qui ont été recrutées dans le cadre des emplois à venir. Est-ce particulier à l'éducation nationale ces emplois à venir ?
Non. L'éducation nationale a un type d'emploi d'avenir très particulier, ce qu'on appelle les EAP, les emplois d'avenir professeurs. Il s'agit pour nous d'offrir à des étudiants boursiers, la possibilité de venir, je dirais, découvrir le système éducatif, et ils ont un contrat de travail et donc une bourse supplémentaire, ce qui aussi peut les aider. Notre objectif, c'est de les convaincre que le métier d'enseignant peut être intéressant, hein, qu'il y a des débouchés, puisqu'il y a énormément de postes mis au concours, qu'ils sont malheureusement pas tous pourvus, et que donc nous voulons les inciter à se présenter et à réussir au concours. Donc depuis le mois de janvier, nous avons dans l'académie aujourd'hui environ 200 de ces emplois, premier et second degré. Nous en aurons 200 de plus à la rentrée prochaine, donc ça commence à devenir significatif. Des étudiants essentiellement en licence deuxième année ou en licence troisième année, hein, qui viennent dans les établissements et ils vont observer comment ça se passe, mais ils vont aussi faire un peu de soutien, de tutorat auprès des élèves. Mais l'objectif premier, hein, c'est de leur convaincre, de les convaincre que le métier d'enseignant est un métier intéressant vers lequel ils peuvent déboucher. Et donc je suis venu, comme je l'ai déjà fait dans quelques autres établissements, essayer de discuter avec ces jeunes, 4 mois après leur arrivée dans l'établissement, avec les professeurs, avec les équipes de direction, bah, comment ils perçoivent ce nouveau dispositif, comment on peut l'améliorer pour l'année prochaine. Bon, globalement, d'ailleurs, je crois que les jeunes le ressentent objectivement très positivement.
Et comment vous faites pour distribuer les postes? Il y a donc 3 ici au lycée Champollion. J'ai entendu mathématiques, anglais, économie.
Oui, comment vous faites? Ce sont, en fait, on, Les des étudiants sont candidats, l'université nous donne un avis pédagogique. Ensuite, en fonction de leur lieu de domicile, ou de leur, on les affecte. Mais ce n'est pas un emploi au sens... nous, notre objectif, ce n'est pas de donner des moyens supplémentaires à une école ou à un établissement. L'objectif, c'est l'étudiant. Il vient observer, voir, comme je vous l'ai dit, soutenir des élèves, mais il remplace pas quelqu'un et c'est pas un poste supplémentaire.
Oui, j'allais vous dire, c'est quand même un emploi précaire, ça va s'arrêter au mois de septembre.
C'est pas un emploi précaire, c'est pas un emploi, malgré le terme. C'est une bourse. Il s'agit d'être. Alors, l'étudiant, c'est des... annuellement, mais si l'étudiant le souhaite, s'il est toujours boursier l'année prochaine, il pourra poursuivre jusqu'au concours. Donc, on peut avoir un étudiant qui devient EAP en licence deuxième année. Bon, s'il le souhaite, il pourra l'être en troisième année l'année suivante, en M1 après, puis là, il aura passé le concours, donc il rentrera dans un autre système. Donc, c'est pas du tout un emploi précaire, c'est une bourse en réalité supplémentaire qui est accordée à l'étudiant pour lui permettre de découvrir le système éducatif, le métier d'enseignant.
Oui, d'une certaine manière, ça peut déboucher sur le métier.
Ah ben, ça débouche sur un concours. Et quand on sait qu'aujourd'hui, on ne pourvoit pas tous les postes mis au concours, donc si nous avons atteint notre objectif, c'est-à-dire que ces jeunes sont attirés par le métier et préparent le concours, ils doivent être reçus. Et on peut penser que le fait d'avoir passé 1, 2 ou 3 ans comme EAP va les aider dans la préparation du concours. Donc ils vont déboucher ce statut d'EAP sur un emploi de titulaire dans la fonction publique de professeur. Donc c'est absolument pas un emploi qu'on dit précaire du type, il faut bien le reconnaître, contrat aidé ou AED que nous avons, qui nous rendent des services, mais qui effectivement sont des emplois temporaires qui ne débouchent pas nécessairement sur quelque chose de définitif. Là, c'est une forme de préparation au concours d'enseignants.
Mais pour lequel quand même ils reçoivent une rémunération de
type... Ils reçoivent une rémunération de l'ordre de 900 euros, mais qui, je veux dire, est en fait, même si juridiquement il y a un contrat, c'est en réalité une bourse supplémentaire. Ils touchent leur bourse et en plus, ils touchent une rémunération comme EAP.
Et ils peuvent se retrouver seuls dans une classe ?
Non, pas en tout cas... quand ils sont en L2 ou en L3, éventuellement en M1, si l'étudiant en question, je dirais, a suffisamment de maturité, c'est au professeur de le juger, ils sont en observation, ils font du soutien, ce n'est pas un emploi. Donc, ils ne font pas un cours. Ils vont être avec un professeur dans la salle de cours, mais voilà, c'est pas un emploi.
Mais ça les prépare au mieux pour leur concours.
Voilà, et ça leur permet surtout de comprendre, je l'espère, ce qu'est le métier d'enseignant et de leur donner envie de l'exercer.
Merci, monsieur le recteur.
De rien.
C'était Christian Philippe, recteur de l'Académie de Montpellier, qui répondait aux questions de Liliane Drey sur les emplois d'avenir professeurs pour Radio Aviva. Ce numéro de Carnet de Région touche à sa fin. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir écouté. Merci à toutes les radios associatives de la région qui y ont participé en y attelant leur sujet brûlant. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouveau numéro des Carnets de Région.
Carnet de Région.
Hérault,
Aude,
Gard,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gard,
Lozère,
Aude.
L'actualité en langue de Roussillon.